tout à l'heure.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Nous le savons tous, le sucre apporte du réconfort, de la joie et du plaisir. Très tôt et même dès le ventre maternel, notre palais est attiré par les saveurs sucrées. Bonbons, chocolat, sucettes, éclairs, biscuits fourrés, jus d'orange, soda, tartelettes aux fraises, cookies, pâtes à tartiner. Du bonheur pour les papilles, mais qui, consommé en excès, peut avoir un effet délétère sur notre santé à moyen et long terme, avec un risque d'addiction, de prise de poids, d'hyperglycémie, de maladies cardiovasculaires. Alors est-il possible de durablement désucrer son alimentation, de faire rimer plaisir et sans sucre? Nous verrons ce matin comment préparer des desserts et des goûters à index glycémique bas. Et vous, quelles sont vos astuces pour manger moins sucré? N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Hey Bob, t'imagines pas la taille des glaces dans ce monde? C'est peut-être pareil pour les barbes à papa. Elles doivent être géantes.
Il y a assez de calories là-dedans pour faire un tour du monde au pas de course.
Bob l'éponge, fou de sucre. Bonjour Marie-Laure André.
Bonjour Annie.
Vous êtes diététicienne, nutritionniste, experte en index glycémique bas et vous publiez chez Solar Zéro Sucre. Bonjour Angélique Houlbert. Vous êtes diététicienne, nutritionniste, également spécialiste de l'index glycémique et vous publiez chez Thierry Soucard Édition J'apprends à mieux manger. Bonjour Bérangère Philippon.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de la page Instagram Zéro Sucre et IG bas et vous publiez chez Larousse le second tome de Je réussis ma détox sucre avec des desserts et des goûters à index glycémique bas. Bonjour Danette Jerkens.
Bonjour Ali.
Honorable directrice de la rédaction du magazine À la table, il y a quelques années, vous avez publié un best-seller Zéro Sucre où vous racontiez votre année sans sucre. C'est disponible en poche chez J'ai lu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, racontez-nous votre histoire avec le sucre avant cette détox, Danette Jerkens.
Ben moi je suis belgo-suisse, donc j'ai le double gène du chocolat au lait. Et je pensais que j'en mangeais moyennement et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis rendu compte qu'en fait je mangeais énormément. Du petit déjeuner au goûter, je trouvais normal de prendre un dessert quasiment tout le temps, je trouvais normal de manger du chocolat à 11h et à 17h, je trouvais normal au petit déjeuner de mettre moult confiture et beaucoup de beurre, j'adore le beurre aussi, sur mes tartines. Enfin voilà, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une grosse consommatrice de sucre. Alors certes pas de sucre en morceaux, parce que je ne sucrais pas déjà mes boissons, mais pour le reste, en fait, du sucre partout, hors cube en tant que tel. Donc c'était un peu un défi, cette enquête. C'était à la fois l'envie de faire une grosse enquête et puis le défi. Et ça a été, enfin, les résultats ont dépassé toutes mes expériences.
Et vous, Bérangère Philippon, votre rapport au sucre avant votre détox?
Alors nous, dans la famille, on a toujours été très très sucrés. On faisait même des goûters dînatoires très souvent le dimanche. Et c'est vrai que pour compenser, j'avais tendance à manger assez sainement en salé et après ben à en profiter sur le sucré. Donc les gâteaux, c'était presque tous les jours, les petits déjeuners sucrés, enfin voilà, vraiment.
Marie-Laure André, a-t-on raison de parler d'addiction? Certains médecins nutritionnistes réfutent cette idée, ou certains chercheurs, d'addiction au sucre.
Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu fort comme mot, on parle parfois de drogue, je pense que c'est vrai que c'est un peu fort, mais je pense que quand on consomme du sucre quotidiennement et qu'on n'arrive pas à s'en passer, qu'on ne peut pas passer une seule journée sans sucre, il faut se rendre compte qu'il y a vraiment une idée de dépendance.
Vous êtes d'accord avec ça, Angélique Houlbert?
Oui, je suis assez d'accord, effectivement. Moi, je dis que les gens sont plutôt accros au sucre. Et effectivement, on n'est pas dans un vrai phénomène d'addiction. Et les conséquences, notamment comportementales, sont quand même pas comparables. Mais oui, on est... Et puis le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire que plus vous en consommez, plus vous avez envie d'en consommer. Donc oui, on est à la limite de l'addiction, mais je dis plutôt on est accro.
Et pourquoi le sucre appelle-t-il le sucre, Marie-Laure André?
Alors, il y a deux phénomènes. Je pense qu'il y a une dépendance qui est physique. Parce que quand on consomme du sucre, ça fait monter le taux de sucre dans le sang. Donc, le pancréas sécrète de l'insuline. C'est une hormone qui est censée donc faire ramener la glycémie à la normale. Et puis, le problème, c'est que parfois, cette glycémie, elle redescend un petit peu trop bas. On appelle ça une hypoglycémie réactionnelle. Et dans ce cas-là, on ressent un petit coup de pompe et souvent une envie de sucre. Donc là, c'est la dépendance physique. Le sucre, la consommation de sucre entretient l'envie, le besoin physique de manger du sucré.
Daniel Jerkens.
En fait, c'est le principe d'une sorte de yo-yo qui circule autour d'une... On peut faire une droite qui est la glycémie idéale, entre guillemets, pour notre organisme et surtout notre cerveau. Et c'est vrai que quand on mange sucré, très sucré, typiquement un petit déjeuner classique avec beaucoup de sucre, ça monte très vite et forcément ça va redescendre très vite. Donc on va passer sous la ligne, sous la cote d'équilibre. Et là, on va avoir envie. Et curieusement, on a assez peu envie d'un saucisson à ce moment-là. Hein. On se jette plutôt sur une barre sucre chocolaté. Enfin, c'est...
Ouais. Alors... Il y a aussi le problème de la dépendance émotionnelle, parce que quand on consomme du sucre, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi, c'est le sucre doudou, il y a une vraie relation familiale,
affective
avec le sucre, et du coup, quand on consomme du sucre, le cerveau sécrète de la dopamine, qui est une hormone du bien-être, et du coup, on a besoin d'entretenir cette sécrétion de dopamine, donc on a toujours envie de remanger du sucre, en fait.
Alors, depuis le début de cette émission, je parle d'index glycémique. C'est une notion que l'on doit au professeur David Jenkins. Expliquez-nous ce qu'est l'index glycémique qui se mesure sur une échelle allant de 0 à 100, Marie-Laure André.
Oui, alors c'est vrai que l'index glycémique, c'est une échelle de valeur, effectivement, ça va de 0 à 100. Et pour moi, c'est le reflet de la qualité d'un sucre. Ça n'a rien à voir avec la quantité de sucre. Il y a beaucoup de gens qui confondent cette notion de quantité et de qualité. L'index glycémique, ça reflète la capacité d'un aliment qui contient des glucides à élever la glycémie, le taux de sucre dans le sang, tout simplement.
Alors, petite précision, au-dessous de 55, un aliment possède un faible index glycémique. Le glucose qu'il contient sera lentement assimilé par l'organisme. Entre 55 et 70, on parle d'index glycémique modéré. Et au-dessus de 70, on a affaire à un aliment à fort index glycémique. Est-ce que vous avez des exemples, Angélique Coulbert, d'aliments à IG bas et à IG élevé, pour se faire un peu une idée de ce qu'est l'index glycémique?
Ouais, mais là je voulais aussi rectifier une toute petite chose, c'est-à-dire que c'est pas le taux de sucre, c'est le taux de glucose, la glycémie, et du coup ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement là on est en train de parler d'aliments sucrés, mais il faut savoir que la baguette de pain blanc classique qu'on achète dans les boulangeries, elle a un index glycémique très très élevé. Pour autant, elle est pas sucrée, il y a pas de sucre dedans. Donc ça, c'est je pense que c'est important aussi de le respécifier. On est sur une émission sur le sucre, mais il y a aussi tous les aliments glucidiques, comme disait Marie-Laure André, tous les aliments glucidiques qui perturbent cette glycémie. Donc
ça, vous avez des exemples d'aliments à IG bas et d'aliments à IG élevé, IG index glycémique?
Dans les sucres ou dans où vous voulez, parce que sinon on a le sirop d'agave par exemple qui a effectivement un index glycémique bas, mais parce qu'il est riche en fructose. Et sinon on peut avoir, alors effectivement parfois dans les listes des ingrédients on peut avoir maltodextrine, et ça c'est un index glycémique mais qui pulvérise toutes vos glycémies, quoi. Donc
la maltodextrine, on la retrouve dans beaucoup d'aliments ultra transformés.
Hein. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez regarder quand vous achetez un aliment, quel qu'il soit, en grande surface ou vous regardez la liste des ingrédients et c'est ça qui va vous renseigner sur la qualité des sucres. Hein. Comme disait Marie-Laure, c'est vraiment la qualité. On regarde pas en premier la quantité, mais effectivement la qualité du sucre qui déjà peut avoir effectivement un index glycémique soit très élevé, soit bas, soit modéré. Le miel, par exemple, un index glycémique modéré.
Le miel d'acacia, par exemple.
Oui, alors tous les miels, effectivement, on a des différences parce qu'on a plus ou moins des teneurs en glucose et en fructose qui sont différentes. Faut pas oublier qu'on est en train de parler de sucre, là, du petit carré, de morceaux de sucre qu'on met. C'est pas que du glucose, c'est glucose et fructose. Oui, allez-y.
Marie-Laure André,
vous... Alors, ce qui est important aussi de bien signaler, c'est que avant, on parlait de sucre lent et de sucre rapide. Et c'est vrai qu'avec cette classification, cette ancienne classification, on mettait tous les féculents dans les sucres lents, le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte, avec cette notion d'index glycémique, qu'il y avait beaucoup de sucres lents, de féculents, qui avaient un impact important sur la glycémie, notamment le riz blanc, la baguette blanche, effectivement. Et du coup, il faut vraiment arrêter de penser sucre lent, sucre rapide, parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle donc des sucres lents, le pain blanc, le riz blanc, qu'il y a un fort impact sur la glycémie. Et à l'inverse, il peut y avoir effectivement certains sucres, sucres rapides, notamment le chocolat noir par exemple, et certains sucres comme le miel d'acacia, le sirop d'agave, qui ont un impact modéré sur la glycémie. Alors après, il faut quand même voir l'équilibre alimentaire et ne pas consommer ces sucres, même s'ils ont un index glycémique bas en excès, parce que c'est pas bon non plus. Et puis là, on est dans l'idée de casser cette dépendance au sucre malgré tout. Mais c'est important de différencier cette notion-là.
Et pourquoi la notion d'index glycémique est importante quand on souhaite manger moins sucré?
Par rapport à cette dépendance de sécrétion d'insuline, parce que en fait c'est ça, c'est l'idée, c'est vraiment de modérer les sécrétions d'insuline, d'avoir une glycémie la plus stable possible, de pas avoir des à-coups vers le haut et des à-coups vers le bas, d'avoir une glycémie la plus plate possible en fait, pour éviter d'avoir vraiment ces envies de sucre récurrentes toute la journée.
Quelle est la dose quotidienne de sucre, de glucides recommandés par les autorités de santé?
Alors, on différencie vraiment les sucres et tous les glucides. Mmh. Pour les sucres ajoutés. Les sucres ajoutés, alors l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande, dans l'idéal de l'idéal, c'est 25 grammes de sucre par jour. On peut aller jusqu'à 50 grammes, mais vraiment...
Ça me paraît beaucoup, déjà,
alors, 25 grammes. En fait, on y vient très très vite, ouais. Parce que dans ces 25 grammes sont inclus donc tous les sucres ajoutés que nous, on ajoute à la maison, mais aussi les sucres qui sont présents dans les produits industriels, sucrés ou pas sucrés, parce qu'on retrouve des sucres ajoutés dans des plats salés, mais aussi les sucres qui viennent des jus de fruits. Et là, ça va très très vite, parce que si vous buvez un petit verre de jus de fruits, on a déjà 15 à 20 grammes de sucre. Donc vous voyez, sur les 25 grammes, on atteint déjà le quotidien en fait.
Angélique Houlbert.
Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, l'OMS dit 10% des apports caloriques, donc ça fait normalement 50 grammes par jour, mais ils disent que dans l'idéal, ouais, il faudrait tendre vers, ça fait 4 à 5 morceaux de sucre seulement par jour. Donc oui, moi je vous conseille vraiment de regarder comme on disait, les listes d'ingrédients. Faites attention aussi à tout ce qui est bu. Et c'est vrai que le verre de jus d'orange le matin, je crois que on commence déjà par ça, entre 3 et 4 morceaux de sucre, alors qu'il faut en consommer entre 4 et 5. Donc ça laisse pas beaucoup de marge.
C'est le cas aussi pour une orange pressée, Angélique Houlbert.
On n'est pas du tout. On a ce côté matrice. Dans une orange, on a toutes les fibres qui vont permettre justement de limiter le passage des sucres dans le sang. Donc on n'a pas du tout le même impact avec un vrai fruit. Et puis quand vous prenez une orange, moi je vous mets au défi d'avoir avec une seule orange, d'avoir un grand verre comme ça.
C'est vrai. Vous êtes une spécialiste des étiquettes nutritionnelles, Angélique Houlbert. Il y a une chose à regarder avec attention quand on regarde le nombre de glucides d'un paquet de gâteaux, d'un plat industriel, etc. C'est le fameux « don sucre ». Ça, c'est très important à regarder, Angélique Houlbert.
Oui, alors, on va quand même... la première des choses à regarder, comme je disais tout à l'heure, c'est la liste des ingrédients. C'est vraiment ce qui va vous renseigner sur la qualité des sucres. Et puis, c'est vrai que si vous trouvez... On parlait de chocolat tout à l'heure. Comment on choisit un bon chocolat? Il faut pas que le sucre soit en premier, oui. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va vraiment regarder si le sucre est dans le trio de tête. Bon, on est déjà mal engagé. Et ensuite, effectivement, si on veut affiner, par exemple, pour choisir un paquet de gâteaux, on va dire, classique, nature, on va regarder glucides et la ligne, vous avez raison, dont sucre, avec un S. Donc effectivement, il y a plusieurs, ça englobe tous les sucres. Et là, ça permet de comparer deux ou trois paquets de biscuits et de voir effectivement celui... Allez, on dit pour un paquet de biscuits nature, on dit pas dépasser 25 grammes ou 100 grammes. Donc si vous êtes à 30, 35, bon, vous vous dites, allez, je peux mieux faire. Je peux choisir un biscuit qui a une teneur en sucre un peu inférieure.
Comment vous expliquez, Angélique Houlbert, prenons la tablette de chocolat, on en a une au bureau, on a regardé la liste des ingrédients. Ouais. Pourquoi est-ce que le sucre arrive en tête dans une tablette de chocolat au lait ou noir?
Chocolat au lait, au lait, c'est assez classique. Par contre, ce qui est quand on montre ça aux patients, de dire faites attention, même dans les gros chocolats avec des belles marques, je ne citerai pas de marque évidemment, où il y a marqué noir extra, on va retrouver le sucre en premier ingrédient. Et il faut essayer au moins de se dire, on essaie qu'ils soient en deuxième position et au moins on va apporter moins de sucre. Parfois un carré de chocolat c'est égal à un morceau de sucre, donc c'est la moitié de la tablette. Quand vous voyez dont sucre 50 grammes ou 100 grammes, ça veut dire que la moitié de votre tablette c'est du sucre. Ouais.
Soyez attentifs aux étiquettes nutritionnelles, Marie-Laure André.
Alors, moi, je pense que pour le chocolat, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder tout simplement le pourcentage de cacao. Voilà, si on arrive à 70% de cacao, ben forcément, il y a moins de sucre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins calorique, hein, parce que le cacao est un aliment gras. Mais déjà, on aura quand même beaucoup moins de sucre. Et c'est vrai que le chocolat noir à 70% de cacao a un index glycémique plus faible. Après, pour les dons sucre, hein, peut-être une petite précision quand on lit les emballages des paquets d'aliments, effectivement, on a glucides, dons, sucre. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ce don sucre, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est que le sucre ajouté. Et c'est pas forcément le sucre ajouté. C'est le sucre ajouté, bien sûr, mais ça peut être aussi d'autres types de glucides. Hein. C'est les glucides simples, ça peut être le sucre du lait, ça peut être le sucre du fruit, etc. Donc, il faut se méfier de ça. C'est pas un indicateur significatif hein, pour l'apport en sucre ajouté.
Alors, Bérangère Philippon, il y a quelque temps, vous avez éliminé les sucres ajoutés de votre alimentation. Quel a été le déclic ? Pour beaucoup, ça paraît très difficile de se passer de sucre. Expliquez-nous, vous, comment vous avez passé le cap ?
Alors moi j'ai passé le cap en fait un peu aussi parce que la quarantaine est arrivée et que forcément on se remet un peu en question à ce moment-là. Après j'avais fait un diabète gestationnel 10 ans avant, donc forcément je savais que j'avais un terrain là-dessus. Et c'est vrai que j'ai commencé, enfin moi j'ai vraiment besoin de comprendre et donc j'ai commencé par lire des livres, dont celui de Daniel Jerkens d'ailleurs qui... Je crois que c'est le premier d'ailleurs, et c'est vraiment celui-là qui m'a donné le déclic parce qu'il était très complet. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je fasse attention. Et ben après, ben, j'ai commencé à.
Ça a été simple ou pas de désucrer son alimentation?
Ben, au début, non. Je vous avoue que le premier mois, ça a été dur.
Qu'est-ce qui a été difficile?
Ben, c'est vrai que moi, voilà, j'avais tendance toujours à la fin du repas à prendre du sucré et ne pas en avoir, c'était pas possible. Donc, il a fallu que je trouve des alternatives qui étaient possibles tout en me faisant quand même un peu plaisir. Je voulais pas le but c'était pas d'être frustrée. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté effectivement du chocolat noir. Je suis passée du chocolat au lait au chocolat noir à 70. Je suis montée jusqu'à 85. J'ai aussi beaucoup intégré les oléagineux. Donc c'est vrai qu'en fait, l'avantage du gras, c'est que sur le coup, on se dit mince, c'est pas bon, on va grossir, etc. Mais en fait, ça calme les pulsions sucrées. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à me dire, évidemment du bon gras, hein, pas n'importe lequel.
C'est-à-dire qu'au lieu de manger 2-3 carrés de chocolat, voire plus, vous avez plutôt opté pour des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches.
Voilà, et avec un petit carré de chocolat noir pour accompagner, voilà, le plus haut possible.
Et vous, Daniel Jerkens, comment s'est passé ce passage au très très sucré, au beaucoup moins sucré ? Expliquez-nous, donnez-nous conseils, hein, parce qu'on est...
D'abord, quand on le fait, c'est formidable parce que vous êtes porté, vous avez une idée, un défi, un challenge, tout ça, c'est super. Puis assez vite, c'est quand même assez raide. Hein. C'est assez raide parce qu'effectivement, votre organisme est habitué à ça, votre cerveau l'attend. Et je pense que au-delà de votre cerveau et de votre organisme, il y a même les bactéries de votre intestin qui l'attendent, parce que les équilibres ne sont pas les mêmes dans le microbiote selon que vous mangez très sucré ou pas. Et certains d'entre eux qui ont très très faim émettent des signaux qui vous demandent d'en manger plus. Moi, c'est pareil en fait. Je me suis beaucoup appuyée sur les oléagineux. Et je me souviens que j'avais tout le temps avec moi une petite boîte en métal dans laquelle j'avais des amandes grillées, des noisettes grillées et un peu de raisin sec. Et je me souviens que je me disais, bon, ok, alors tu prends un raisin sec, 3-4 amandes. Comme ça fait, en bouche, il y avait quand même un peu ce côté plaisir. Et en fait, la noisette, par exemple, grillée était intéressante parce que, alors moi, typiquement, je ne mangeais pas du tout de pâte à tartiner parce que c'est pas du tout mon truc. Je l'ai pas mangé enfant, donc j'ai pas ce goût. Mais il y avait quand même ce sentiment, cette sensation quand je mangeais des noisettes ou des amandes grillées. Ça évoquait un souvenir gustatif qui était associé au sucre. Donc ça donnait l'impression de sucre. J'ai utilisé, par exemple, de la poudre de vanille. C'est-à-dire des gousses de vanille mixées en poudre, et j'en parsemais parfois un tout petit peu sur un fromage blanc ou un yaourt nature, et j'avais cette sensation, ce sentiment d'un peu de sucré, ou de la cannelle, ça marche très bien
mais
aussi.
Comment vous résistiez à ces pulsions sucrées, parce que le sucre c'est un plaisir réconfortant, surtout en ces temps anxiogènes, Bérangère Philippon, comment vous faites quand vous avez une pulsion sucrée aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'en ai nettement moins. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que, enfin, on se rend compte qu'on était vraiment sous l'emprise en fait du sucre. Moi, j'en ai nettement moins qu'avant. Ça peut m'arriver quand même. Hein. Et c'est vrai que voilà, donc je prends des oléagineux, le chocolat noir. C'est vrai que je suis passée à 86-90% maintenant. Et après, moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que il fallait que je mange suffisamment en salé. Que je me fasse plaisir aussi, parce qu'en fait, quand on se fait pas plaisir, ben forcément, on a envie d'après de craquer sur du sucré. Et après, il y a toujours l'astuce. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est après le plat salé, je vais faire un peu de ménage entre guillemets. Enfin, je range la cuisine. Et en fait, c'est vrai que la pulsion sucrée, elle est très furtive. Elle arrive, elle est très forte, mais après, elle peut se calmer en 10 minutes, quoi.
Alors il y a une chose qui est quand même assez symptomatique, c'est qu'on se rend compte que même lorsqu'on a désucré son alimentation et sa vie, moi ça fait 8 ans maintenant que j'ai beaucoup désucré, j'ai repris mais pas du tout de la même manière, dans les moments de grande fatigue, dans les moments d'angoisse, dans les moments d'énervement, moi je sais que de temps en temps nous avons parfois des énervements avec mon mari, c'est très rare car c'est un astre, je peux avoir une envie tout à coup effectivement de compensation sucrée.
Ça, c'est très intéressant, Marie-Laure André. Dans ces cas-là, dans ces moments-là, dans ces moments de stress, dans ces moments de fatigue, comment dévier cette envie sucrée ?
Alors, il n'y a pas une seule chose qui marche. Hein. Il y a plusieurs choses. Il faut tester, en fait. Et je pense que la première chose, c'est de voir les progrès. De se dire qu'on ne va pas se débarrasser de cette addiction du jour au lendemain. Hein. Ça ne va pas partir du jour au lendemain. Donc, ça va diminuer en intensité et en fréquence. Donc, de voir un petit peu l'évolution, comment ça se passe. Et puis, après, il faut se dire qu'il y a aussi... c'est les 15 premiers jours hein, qui sont les plus compliqués parce que les papilles gustatives, elles se renouvellent. Hein, les cellules des papilles gustatives se renouvellent tous les 15 jours. Donc, c'est vraiment ce premier cap-là qui est compliqué. Et après, c'est des habitudes.
Un premier conseil, Marie-Laure André, un premier conseil. Justement, dans ces moments de stress, de fatigue.
Alors, je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que je mange suffisamment ? Est-ce que je ne peux pas... peut-être succomber à cette envie, accéder à ce plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que le sucre, c'est quand même la notion de plaisir aussi. Et l'idée, ce n'est pas de supprimer à vie le sucre, c'est juste d'arriver à se débarrasser de cette addiction pour pouvoir en consommer raisonnablement, en fait.
Angélique Houlbert, un conseil à nos auditeurs comment dire, calmer ces fringales sucrées.
Je pense qu'il faut accueillir aussi ses émotions et de dire si, oui, on s'est disputé avec son mari, avec ses enfants, si on a eu une journée assez raide comme ça. Et en fait, si on a à craquer, il faut le faire, mais il faut le faire en toute connaissance, en toute conscience et ne surtout pas culpabiliser. Si vous culpabilisez, c'est foutu, hein, donc... Bah sinon vous pouvez chausser vos baskets et ou faire du ménage comme on disait, vous changez les idées, mais ça ne résout pas le problème de base. Donc oui, il y a des craquages et c'est pas grave, voilà, il faut vraiment accueillir ça de manière bienveillante et se dire bah allez, tant pis, j'ai craqué, mais c'est pas grave.
Surtout quand on le fait de manière consciente et bienveillante. Déjà, on prend plaisir à manger, voilà, quelque chose de sucré. Et puis, effectivement, il n'y a pas cette culpabilité derrière. On apprécie et du coup, on arrive à réduire la quantité.
Donc ça, une des grandes leçons de mon année totale sans sucre, ça a été de découvrir qu'en fait, le vocabulaire du réconfort peut s'élargir. Et que souvent, on a des modes de fonctionnement assez simples et automatiques. Parce que c'est de l'ordre de l'habitude. Et moi, j'ai découvert que écouter de la musique, sentir du parfum, me faire un thé, il y avait d'autres choses qui pouvaient me procurer énormément de plaisir qu'uniquement une bouchée de quelque chose de sucré.
Et puis aussi, si on a envie de craquer, on a envie d'un cookie plutôt que de manger le paquet industriel dans le placard, de se dire je vais le préparer moi-même. Je vais préparer un cookie, j'en ai envie, et je vais utiliser les bons ingrédients. On verra dans quelques minutes quels sont les bons ingrédients pour préparer ce cookie ou ce gâteau maison ou cette douceur maison. Et je pense que ça permet de moins craquer.
Alors, une chose est absolument certaine, c'est que quand vous préparez les choses vous-même, déjà, vous mettez quand même beaucoup moins de sucre, excusez-moi l'expression, et de merde dans l'alimentation. Je connais personne chez lui qui a des sachets de maltodextrine, des sachets de sirop de maïs, enfin, de genre. Voilà. Donc, déjà, ça simplifie les choses. Deuxièmement, quand vous préparez vous-même, en fait, vous vous nourrissez. Pas uniquement symboliquement, des parfums, des actes, de toute la sensorialité qu'il y a autour et qui est bien plus vaste que d'ouvrir un paquet de films plastiques, de sortir un biscuit et de l'engouffrer. Ça change complètement le rapport.
Bérangère Philippon.
Oui, tout à fait.
Vous êtes évidemment d'accord.
Alors là, moi je sais que c'était impossible de supprimer totalement le plaisir sucré, donc c'est vrai que j'ai commencé à essayer de faire de plus en plus de pâtisseries vraiment à index glycémique le plus bas possible.
Elles sont très appétissantes hein, dans votre livre.
C'est vrai qu'avec très peu de sucre, parce que le but c'est pas de remplacer le sucre par un autre sucrant en même quantité, le but c'est aussi de déshabituer le cerveau, mais tout en gardant une petite quantité qui va faire qu'on se fait plaisir. Et c'est vrai que je rejoins Daniel Jerkens, le fait de préparer aussi, ça prend du temps, ça se mérite entre guillemets. On a les odeurs, et en fait rien que ça prépare un peu, on se fait plaisir même en faisant ça.
Il y a une petite recette express hein, quand j'ai une pulsion de glace et des framboises surgelées, un yaourt grec, un petit peu de vanille et un peu de miel d'acacia au mixeur, et ça vous fait une glace déculpabilisante, parce que il y a surtout du fruit. Allez, dans quelques instants, quels sont les ingrédients phares quand on souhaite déguster des desserts et des goûters à index glycémique bas? En attendant, on écoute Christophe qui interprète Aline à 10h32. C'est très sucré, mais ça fait du bien, hein, Daniel?
J'avais dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé.
Christophe, interprété Aline, et ça fait chanter notre réalisatrice, Claire Destacan.
Du sucre.
Grand bien vous fasse.
Placez du sucre. Un porte-en-pot, ils vont crever.
Ali Rébéi.
Parce que moi, j'en prends.
Sur France Inter.
Voilà.
Vous avez peut-être reconnu Roger Hanin dans le film Le Sucre. Comment manger moins sucré, c'est notre thème ce matin. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons Raymond Oliver et Catherine Langer.
Alors voilà, on va fabriquer du fondant tout d'abord. Voyez-vous, je prends du sucre en morceaux, du sucre de canne si possible. Voyez-vous, j'en mets dans une casserole. Cette casserole, je la mets sur le feu.
Bien.
Un peu d'eau et je mets du glucose.
Du glucose.
Oui, du glucose. Le glucose, voyez-vous, c'est cette espèce de pâte très translucide, que voilà.
Ça s'achète également naturellement.
Ça s'achète également dans le commerce.
En pharmacie, je crois.
En pharmacie également. Pour une livre, je mets une livre de sucre à peu près, une cuillère et demie environ.
Alors je rappelle, on se sert de préférence du sucre de canne.
Sucre de canne.
Alors avec une livre de sucre, on peut glacer à peu près 5 gâteaux de taille moyenne.
que vous nous avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire, vous voyez, avec une livre, on peut faire à peu près ce que nous avons fait là.
Oui.
Une livre de sucre qui donne...
Ça fait vraiment beaucoup.
Ah oui.
Bon, eh bien, j'espère que vous allez tous faire d'excellents gâteaux et surtout des gâteaux aussi joliment décorés que ceux que nous a présentés aujourd'hui M. Raymond Livert.
Une recette très sucrée dans Art et Magie de la Cuisine en 1955. Vous me disiez hors antenne, Daniel Jerkens, directrice de la rédaction de Elle, que de plus en plus de cuisiniers et de pâtissiers utilisent moins de sucre dans leur préparation.
Oui, alors moi, quand j'avais fait cette enquête, mon travail fait que je fréquente beaucoup de pâtissiers et de cuisiniers et quasiment tous m'ont dit la même chose, qu'ils avaient... alors beaucoup ont lu d'ailleurs le livre. Zéro sucre. Et ils m'ont dit que traditionnellement, c'est vrai que les quantités de sucre étaient très importantes. Par exemple, dans une crème anglaise, jusque dans les années 90, on disait qu'il fallait mettre à peu près 600 grammes de sucre pour... c'était un truc de fou. Et en fait, ils m'ont tous expliqué qu'ils ont baissé ces dernières années de 30% à 40% en moyenne la quantité de sucre dans leurs gâteaux. Qui se rendait compte que ça marchait très très bien. Et il me disait que ce qui permettait aussi, enfin ce qui explique aussi qu'il y avait autant de sucre traditionnellement dans les recettes, c'était une question de conservation. C'est que le sucre est un conservateur, un stabilisant, et que donc sucrer énormément une recette, c'était la garantie qu'elle tienne. Aujourd'hui, les systèmes de froid quand même et de chaîne du froid étant ce qu'ils sont, on a beaucoup moins besoin de mettre autant de sucre.
Alors beaucoup de questions nous arrivent et notamment celle-ci. Quels sont les effets de la diminution du sucre ajouté dans votre vie, du point de vue de votre santé, de votre bien-être? Quels ont été les effets, Daniel Jerkens?
Alors j'ai envie de dire, c'est magique. Absolument magique. Moi, j'avais constaté une perte de poids de quasiment 10% alors que je mangeais, je ramassais tous les gras de jambon dans les assiettes, je mangeais énormément d'avocats, etc. Baisse des coups de pompe, plus de coups de fatigue, forcément, c'est logique, puisque la glycémie est stable. Baisse des rides, disparition quasiment des rides, puisque ça a tendance à faire des rides et à jaunir le teint. Humeur beaucoup plus stable. J'avais beaucoup d'allergies respiratoires, de problèmes ORL qui ont disparu également. Donc honnêtement, c'était carton plein.
Marie-Laure André, diététicienne, nutritionniste.
Oui, c'est vrai que c'est... je vais reprendre le même terme, hein, c'est magique. Moi, je reçois énormément de témoignages de personnes qui se sont mis à l'alimentation index glycémique bas et qui ont vraiment énormément réduit tous les sucres et supprimé le sucre raffiné, surtout. Et c'est vrai qu'il y a des effets au niveau de la santé, au niveau de la prévention cardiovasculaire, beaucoup moins d'inflammation dans l'organisme, beaucoup moins de douleurs articulaires, un meilleur sommeil, une vitalité retrouvée, une perte de poids, bien sûr, optimisée et surtout sans frustration et sans restriction, sans fatigue. Ça, c'est énorme, en fait.
Vous avez constaté la même chose, Bérangère Philippon, vous avez publié « Je réussis ma détox sucre ».
Oui, alors moi aussi, j'ai ressenti vraiment les mêmes bienfaits. Et c'est vrai que très vite, ça arrive. C'est-à-dire qu'au départ, moi je sais que j'avais un petit peu d'acné, elle est partie. Parce que comme c'est inflammatoire, forcément, on le voit donc déjà dans le miroir le matin. Après aussi, vraiment une amélioration de la digestion, du transit. De bien digérer, c'est là où on se rend compte que c'est assez impressionnant. Et puis voilà, tout l'énergie qu'on gagne, le bien-être, et puis surtout la fin de ces pulsions sucrées. Mais franchement, c'est assez impressionnant de voir comment ça se calme.
Alors, quels sont vos ingrédients phares pour des desserts et des goûters à index glycémique bas? Donnez-nous vos astuces, Bérangère Philippon.
Alors donc moi je me suis pas mal documentée, j'ai préféré rester sur des sucres en fait naturels, parce qu'il y a certains édulcorants qui sont mauvais pour la santé, notamment pour justement le microbiote, donc ça j'ai préféré ne pas en prendre. Alors au départ j'ai commencé à comme un peu tout le monde à voir sirop d'agave, miel d'acacia, donc des choses riches en fructose, ce qui est très bien pour sucrer un petit peu un gâteau, mais surtout il faut baisser la quantité par rapport à ce qui est annoncé, c'est-à-dire que dans un cake je vais mettre 40 grammes, je vais pas mettre 70 grammes ou même 100. C'est vrai que c'est important de faire attention aussi à ça.
Alors vous utilisez par exemple le sucre de coco, le sucre de fleur de coco?
Oui, ça j'en utilise un peu. Alors l'index glycémique est un petit peu plus élevé, mais je trouve que c'est vrai que c'est le sucre qui ressemble le plus, on va dire, au sucre classique, mais toujours en petite quantité. Voilà, dans les cookies, je peux en mettre que 20 grammes. C'est pour donner ce petit goût. Et comme c'est accompagné de plein d'autres choses, comme pas mal d'oléagineux par exemple, ou même un peu de chocolat noir, c'est vrai que les saveurs sont là aussi. Il n'y a pas que le goût sucré. Il y a aussi d'autres saveurs qui au final... le palais s'habitue aussi à ces nouvelles saveurs. Et
quelle farine utilisez-vous en règle générale pour faire vos pâtisseries?
Alors, c'est là où j'ai vu que la farine de blé classique qu'on utilise, la blanche, la raffinée, la T55 ou 45 même, était vraiment à éviter parce que l'index glycémique est très élevé de plus de 80. Donc, je suis passée évidemment aux farines non raffinées et moi, j'ai beaucoup apprécié la farine d'orge mondée qui a un index glycémique de 30.
Je ne connais pas.
Alors moi non plus je ne connaissais pas, elle n'est pas toujours facile à trouver, mais je trouve que dans les pâtisseries c'est celle qui est la plus neutre et qui ressemble le plus. Alors oui, elle va moins monter, c'est vrai que si on veut faire un gâteau très gonflé ça va moins marcher, mais déjà ça aide. Et puis il y a autre chose aussi, moi je me suis rendu compte que la poudre d'amande elle aide énormément aussi à jouer ce rôle d'épaississant, et de temps en temps je mets dans mon gâteau chocolat par exemple, je mets plus de farine, je mets de la poudre d'amande.
Moi je mets de la poudre de noisette grillée.
Oui, c'est très bien aussi.
Ça joue un rôle sur la texture. Marie-Laurent Drey aussi. Oui, alors c'est vrai que en fait il y a pas mal de farines à index glycémique bas, la farine d'orge effectivement, il y a la farine d'épeautre complète qui est excellente pour réaliser pas mal de pâtisseries et autres préparations à index glycémique bas.
Et quel sucrant conseillez-vous, vous ?
Alors moi je pense que aucun sucre n'est parfait. Je pense qu'ils ont tous leurs petits défauts. Certains sont riches en fructose, effectivement. Donc après, on ne va pas diaboliser le fructose. Si on en consomme raisonnablement, il n'y a aucun risque pour la santé. Donc c'est juste une histoire de quantité. Alors, moi, j'aime beaucoup le sucre de coco. J'utilise aussi du miel d'acacia parce que je pense qu'effectivement, il faut rester dans le plus naturel possible.
Je crois que l'index glycémique du miel d'acacia, c'est 35.
Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. À peu près, 35-40. Le sirop d'agave aussi. Si on arrive à trouver un bon sirop d'agave, on trouve maintenant du sirop d'agave cru qui n'a pas été porté à haute température. Donc, je pense que c'est une bonne alternative aussi. Et le mot d'ordre, c'est vraiment modération et peut-être varier les sucres.
Daniel Jerkens.
De manière générale, quand vous pâtissez, vous pouvez baisser sans problème de 30 à 40% les quantités de sucre qui sont indiquées dans les recettes. Déjà, ça c'est déjà un principe. Et ça ne sera pas moins bon. Moi, j'avais découvert pendant cette année un truc qui marchait très bien, c'est la poire. Oui. La poire crue, c'est excellent, mais la poire cuite, c'est absolument merveilleux et ça devient très sucré quand on la cuit. Donc si par exemple vous faites une compote de pommes, le simple fait de mettre quelques poires dedans va donner un côté très sucré. Et pour les gâteaux, c'est une vieille recette de ma grand-mère que j'ai un peu réadaptée, râper de la poire crue, ça vous donne comme des copeaux. Et ça, mélangé avec de la poudre d'amande, du blanc d'œuf battu en neige et par exemple des flocons d'avoine, vous mettez tout ça dans un moule chemisé.
Avec de la vanille et des épices
aussi. Avec éventuellement
un
peu de vanille ou un peu de cannelle. Vous mettez ça dans un moule chemisé au four. Alors il faut le faire cuire à 150 degrés, peut-être pendant 45 minutes, puis voir s'il est cuit. Mais en fait, ça vous donne un gâteau qui est en bouche très sucré, très léger. Donc il y a vraiment ce côté extrêmement plaisir. Et en fait, il n'y a pas eu de sucre ajouté dedans. La seule chose qu'il y a, c'est de la poire. Donc,
et qu'est-ce que vous pensez de la réduction de jus de pomme ou de jus de raisin ? Ça se fait beaucoup. Certains pâtissiers l'utilisent. Ils réduisent ça à l'état de caramel.
Mais c'est du fructose pur. Ouais. C'est du fructose pur. On n'a pas de capteur avec du fructose dans l'organisme. Donc on en fait des triglycérides qui deviennent de la graisse dans le ventre. Voilà. Bon, après, c'est un choix. Hein. C'est Angélique, à petite dose.
Angélique Houlbert, est-ce que vous conseillez d'utiliser des édulcorants pour remplacer le sucre ?
Absolument pas, ça c'est la fausse bonne idée. On disait qu'on n'avait pas dans nos placards de la maltodextrine, des sirops comme ça, mais par contre on peut avoir de l'aspartame, de l'acésulfame de potassium ou du sucralose. Hein. Et ça c'est vraiment, effectivement c'est voilà quasiment zéro calorie, mais par contre c'est pas zéro impact sur l'organisme. Alors non seulement ça entretient l'appétence pour le goût sucré, ça perturbe le microbiote, hein, comme on disait tout à l'heure aussi, hein, nos bonnes bactéries, donc ça crée des dysbioses, des déséquilibres entre ces différentes bactéries. Et on a une étude qui vient quand même de tomber de l'INSERM, Mathilde Touvier, qui est justement directrice de recherche à l'INSERM, qui vient de tirer la sonnette d'alarme avec son équipe, hein, en disant que... Vous savez, c'est eux qui analysent la consommation dans l'étude Nutrinet, donc de plus de 100 000 Français, quoi, et depuis 2009. Et là, les résultats, ils sont sans appel. Hein. Il y a vraiment une relation qui existe entre la consommation d'édulcorants, alors notamment l'aspartame, l'acésulfame de potassium, et un risque accru de cancer, tout type confondu. Donc ça, c'est une étude qui vient de...
Oui, c'est une étude de l'INSERM, de l'INRAE, de l'Université Sorbonne-Paris-Nord et du CNAM, qui a analysé les données de santé santé et de consommation d'édulcorants de 102 865 000 adultes qui participent donc à cette étude de cohorte Nutrinet et Santé. Et c'est vrai qu'ils ont, ces scientifiques, comparé la consommation d'aspartame et d'acésulfame K avec ceux qui n'en consomment pas. Et évidemment, ils ont constaté un risque plus élevé de développer un cancer, et vous le disiez, tout type de cancer confondu. C'est important de relayer cette étude, Angélique Coulbert. Tiens, nous prenons au téléphone Élise. Bienvenue, Élise.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous arrivez à manger moins sucré, vous ?
Oui, j'essaye.
C'est quoi vos astuces, alors ?
Alors, notre astuce à nous, dans notre famille, c'est de diviser par deux, voire par trois, toutes les doses de sucre dans toutes les recettes de pâtisserie.
Ah, ça, c'est pas mal, ça. Hein. C'est ce que vous disiez, Daniel. Hein. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est bon ?
Oui, alors justement, personne ne s'en rend compte. Moi, je ne le dis jamais. Et ni les enfants, ni les adultes.
D'accord. Et quel sucre utilisez-vous ? Est-ce que vous utilisez le sucre classique, le sucre raffiné classique ? Ou est-ce que vous tentez les sucres de fleur de coco, le muscovado, qui est un sucre complet ? Quel sucre vous utilisez ?
Nous avons du sucre de canne clair en très très grande quantité. Qu'un ami nous rapatrie. Et je ne connaissais pas justement ces autres sucres, donc je vais me pencher dessus.
Tiens, Daniel Gerken, sur le muscovado, le sucre complet.
Alors, le muscovado.
Il y a beaucoup de sels minéraux, d'oligo-éléments.
Alors, il y en a. Beaucoup me paraît un chouïa excessif. Je dirais qu'on doit être à 99% effectivement de sucre. Et
j'essaie
1%...
de me donner bonne conscience, c'est le sucre
contre,
que j'achète.
Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un goût qui est très puissant. Ouais. Presque un goût un peu de mélasse. Et donc, il peut être intéressant parce que c'est aussi. Plus le sucre aura un parfum, un goût, moins on en aura besoin.
Oui, mais du coup, on ne peut pas l'utiliser pour toutes les préparations.
Non.
Voilà,
ah c'est pas un sucre neutre.
C'est un petit peu comme le sucre de coco qui a un goût quand même assez puissant qu'on ne va pas pouvoir utiliser dans toutes les pâtisseries. Mmh. Après, le sucre muscovado, le problème, c'est que son index glycémique, il est quand même quasiment aussi élevé que le sucre blanc.
C'est vrai. Mais on en met moins, on en met un petit peu moins.
On en met moins, d'accord.
Merci beaucoup, Élise, de nous avoir rappelé. Nous accueillons Elisabeth. Bienvenue, Elisabeth.
Oui. Bonjour à tous.
Quelle est votre question ?
Alors voilà, moi j'ai deux questions. Je voulais savoir si y avait des moments dans la journée où on était plus tenté de manger sucré qu'à d'autres moments. Parce que moi, par exemple, je suis plus tentée de manger sucré à partir de 16h. Alors est-ce que ça a un rapport avec le goûter des enfants et...
Oui, c'est tout à fait normal, je vous rassure. Mais c'est plus lié à une notion, un rapport émotionnel en fait, au sucre. Hein. Parce que les envies de sucre, c'est rare que ça arrive dans la matinée. Même le midi en général, on arrive à maîtriser correctement son déjeuner. Par contre, c'est vrai que à partir du milieu de l'après-midi ou de la fin de l'après-midi, on a toujours ces petites envies de sucre. Alors ça peut être le retour du travail où on a été un peu stressé dans sa journée et du coup un relâchement. On a envie d'être apaisé. En fait. L'envie de sucre, c'est plus un besoin d'apaisement. Voilà.
Qu'est-ce que vous goûtez quand vous avez ces pulsions sucrées, Elisabeth ?
Moi, c'est le chocolat, en fait. Ouais. Bon. Alors, un peu tout ce qui me tombe sous la main, j'avoue.
Donc, on l'a dit tout à l'heure, regardez bien sur les étiquettes, hein, l'ingrédient numéro un de la plaquette de la tablette de chocolat. Si le sucre arrive en tête, voilà.
D'accord. Mieux vaut privilégier. Je voulais savoir si l'hypnose pouvait avoir. Vous pouvez nous aider éventuellement pour se déshabituer justement.
Oui, tout à fait. Ça peut être une bonne technique que vous pouvez explorer. Alors après, ça peut marcher chez certains et moins chez d'autres. Mais je pense que l'hypnothérapie, ça peut être vraiment un outil qui peut vous aider à réduire vos pulsions en fait pour le sucre.
Un point qui est très important, c'est qu'il faut manger assez. Surtout les femmes, on peut avoir tendance à se sous-alimenter entre guillemets un peu pour rester mince, et surtout les Françaises qui sont les femmes en Europe qui ont le regard le plus acéré sur elles-mêmes. Et quand on ne mange pas suffisamment, l'organisme cherche. Ailleurs,
oui, en fait, quand il y a des restrictions, ce qu'on appelle les restrictions cognitives, quand on se prive trop, forcément l'organisme il va réclamer à un moment donné ses besoins. C'est normal d'avoir des envies de sucre quand on n'en mange pas suffisamment dans la journée.
Bérangère Philippon.
Moi, je sais que c'est aussi souvent en fin de journée que ça arrive. Et ce que je fais, c'est que justement tout ce qui est féculent, je le prends plutôt, le midi, j'en ai pas trop besoin. Et je le prends surtout le soir, parce que comme ça, il y a ce côté rassasiant avec les fibres. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de moins craquer après sur un gros dessert.
Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth, tiens, à propos de féculents, Véronique nous demande pourquoi les pommes de terre chaudes ont un indice glycémique plus haut que les pommes de terre froides.
Alors ça, c'est lié, oui, c'est lié à leur amidon, en fait. Dans l'amidon des pommes de terre, il y a de l'amylose et de l'amylopectine, qui sont deux polymères qui constituent l'amidon. Et en fait, quand on cuit les pommes de terre, cet amidon il devient plus accessible aux enzymes digestives, donc ça élève l'index glycémique. Par contre, quand on les laisse refroidir, quand on met les pommes de terre au frigo, cet amidon, on dit qu'il rétrograde, il reprend sa configuration d'origine. Et du coup, ça fait abaisser l'index glycémique. Donc c'est intéressant de consommer en fait les pommes de terre plutôt en salade.
Alors moi j'ai juste une question, et si on réchauffe des pommes de terre cuites, refroidies, oui, réchauffées, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien ça va remonter l'index glycémique, mais pas dans la même proportion que lors de la première cuisson. Donc ça peut être intéressant de consommer ce qu'on appelle du réchauffé, que ce soit des pâtes, du riz ou des pommes de terre.
Autre question avant d'écouter le disque, est-ce qu'on peut manger de la compote sans sucre ajouté au moment de sa pulsion sucrée?
Bah, pourquoi pas, si ça peut aider et ça, si ça satisfait en fait cette pulsion, l'envie. Là, il y a une envie de sucre, donc manger une compote sans sucre, bon, on va apporter les sucres du fruit. Et puis ça peut faire passer cette envie, ben pourquoi pas en fait.
Allez, on continue à répondre à toutes vos questions juste après avoir écouté Arcade Fire à 10h51. Thought we reached the mountaintop, but now we just feel so low. The sky is breaking open, we keep hoping in the distance we'll see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold. C'est bon ça, Arcade Fire, The Lightning.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Comment manger moins sucré, c'est notre thème ce matin. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Énormément de questions, notamment Thomas qui nous demande comment limiter son addiction au soda. Il en boit 1 litre par jour. Marie-Laure André, vous êtes diététicienne. Que faire face à cette addiction?
C'est déjà bien d'avoir pris conscience de cette addiction-là. Alors après, la mauvaise idée, ce serait d'aller prendre du soda light, surtout pas. Hein, on a bien dit que les édulcorants, c'est pas bon du tout pour la santé, donc surtout pas de soda light.
Peut-être d'abord s'interroger sur ce besoin de boire autant de soda par jour.
Oui, déjà, c'est vrai qu'il y a une vraie addiction à ces boissons sucrées là. On peut-être tester de l'eau gazeuse avec un filet de jus de citron. Mmh. Non, ça marche assez bien quand même.
Alors moi, parce que j'ai eu des cas autour de moi, premier conseil, n'arrêtez pas d'un coup parce que ça va être compliqué. Coupez à l'eau. Coupez à l'eau, progressivement coupez à l'eau. Alors au début, 10% d'eau, 20% d'eau, progressivement, baissez comme ça.
Mettez de l'eau gazeuse.
De l'eau gazeuse. Voilà. Et puis après, effectivement, on peut faire des infusions. Un truc qui est très très bon, par exemple, jus de citron, quelques tranches de gingembre, de l'eau chaude, vous laissez retomber. Éventuellement, un tout petit peu de sucre, une cuillère à soupe de sucre pour un litre.
Un peu de miel, d'acacia,
un peu de miel, pardon, je pensais miel en plus. Voilà, et ça va vous donner quelque chose de très gourmand, de très agréable.
Dans le même genre, Élodie nous dit qu'il lui est impossible de se passer de son paquet de bonbons quotidiens. En cette période anxiogène, c'est mon seul moyen d'aller mieux. Marie-Laurent.
Oui, bah là, en fait, elle a dit son problème, c'est son problème anxiogène, en fait. Donc là, il faut vraiment travailler sur ses émotions, la gestion du stress. Et c'est ça la clé, en fait, plutôt que d'aller réduire sa consommation de bonbons, etc. Je pensais d'abord travailler sur son stress et mieux accepter ses émotions.
Gérard nous demande si un petit déjeuner salé est conseillé pour manger moins sucré tout au long de la journée.
Oui, ça aide beaucoup. S'il fait partie de ces personnes qui ont besoin de prendre un petit déjeuner, parce que c'est pas le cas de tout le monde, prendre un petit déjeuner protéiné, donc le moins sucré possible, ça aide à mieux gérer les autres repas de la journée en général.
Bérangère Philippon, est-ce que vous avez des conseils, d'autres conseils pour manger moins sucré?
Alors moi, ce que je voulais dire aussi...
Cuisiner moins sucré.
Ce que je voulais dire, c'est que en fait... On peut se dire que tout est possible, c'est-à-dire qu'on a envie d'une pizza avec, donc c'est vrai que la pâte, souvent quand on les achète toutes faites, est bourrée de farine blanche, donc avec un indice glycémique élevé, et ben à ce moment-là, on fait sa propre pâte. Alors, il y a des pâtes qui peuvent être plus ou moins rapides, et c'est vrai qu'on en trouve des très bonnes. Donc en fait, c'est essayer de se remettre un petit peu à cuisiner, sans que ça prenne trop de temps non plus, parce que je comprends qu'on a tous des vies très chargées, mais moi je trouve que la clé de la réussite, c'est aussi l'organisation. Se faire un petit planning le week-end, ça prend pas autant de temps que ça. Après, ça nous libère un peu l'esprit pour la semaine. On se prévoit quand même quelques petites douceurs, mais qui ont moins d'impact sur la glycémie. Et puis après, ben voilà, on en profite, quoi.
Alors pour terminer, notre camarade Mathieu Vidard m'a demandé tout à l'heure 3 règles d'or. Je pense que ça concerne énormément de monde. Les 3 règles pour arrêter de manger trop sucré. Est-ce que Marie-Laure André, vous avez des règles fondamentales pour essayer de désucrer son alimentation
oui.
au quotidien?
Alors, je pense que déjà, il faut se mettre à lire un peu mieux les étiquettes des produits alimentaires, de regarder la liste des ingrédients. C'est vraiment le meilleur indicateur de repérer la présence de sucre qui n'est pas forcément noté clairement. La deuxième, c'est de cuisiner, comme l'a dit Bérangère. C'est vraiment de se mettre à cuisiner soi-même le plus possible pour maîtriser vraiment le contenu de son assiette et réduire en fait les quantités de sucre ajouté et en profiter peut-être pour utiliser des sucres à index glycémique bas. Et après, je pense que la troisième règle d'or, c'est de trouver son rythme. On a parlé de l'histoire de progression, de réduire petit à petit, de couper d'eau les sodas. Et je pense que c'est une bonne astuce en fait. De couper du jour au lendemain, il y a des personnes qui vont y arriver, mais c'est vraiment pas la majorité. Et je pense qu'y aller petit à petit, progressivement à son rythme, ça c'est une bonne idée.
Parce que ça peut être contre-productif d'abandonner le sucre d'un seul coup. Angélique Houlbert, diététicienne nutritionniste, votre règle d'or pour essayer de manger moins sucré?
Ouais, moi c'est surtout prendre conscience qu'on consomme du sucre et qu'il est un peu caché partout, des confitures le matin avec le jus de fruits, en passant par les yaourts sucrés. Et c'est plutôt ça. Déjà, quand on prend conscience, on a déjà fait un grand, grand pas. Et après, comme on disait, essayer de pas culpabiliser, de se mettre à lire les étiquettes, à faire de nos propres gâteaux, prendre vraiment conscience de cet excès de sucre.
Et puis s'accorder de la bienveillance. Moi, j'ai arrêté d'arrêter. J'ai repris. Plus du tout dans la même quantité. Et par exemple, si je vous donne un exemple, sur la dernière semaine, j'ai quasiment pas mangé de sucre. Mais mercredi après-midi, je suis passée devant Mamiche, qui est une boulangerie parisienne, et je me suis acheté un chou à la crème, parce que j'en avais envie. C'était absolument délicieux. Je ne me suis pas dit que j'étais nulle, faible, ou quoi que ce soit. Et voilà. Et depuis, je n'en ai pas remangé, et tout va bien.
Exactement. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. Merci Bérangère Philippon. Je réussis ma détox sucre. Le deuxième volume vient de paraître chez Larousse. Merci Marie-Laure André, mon cahier zéro sucre est publié chez Solar. Merci Angélique Houlbert, j'apprends à mieux manger, c'est publié chez Thierry Soucard Édition. Merci Daniel Jerkens, à la une du tout nouveau à la table.
Les poissons, on n'est pas du tout dans le sucre, mais on peut plonger dedans aussi.
Demain, grand bien vous fasse, loisirs et quelques surprises en ce 1er avril.